tous. Donc, il s'agit aujourd'hui du prophète Isaïe. Je vais vous dire quelques petits mots très rapides. C'est quoi ça? D'accord. Je vais vous dire quelques petits mots très rapides sur le prophète lui-même et sur le livre, donc les livres. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, vous m'entendez pas? Et si je prenais l'autre quand même, non? Je vais prendre l'autre. C'est vrai que j'ai pas une voix. Peut-être si vous vouliez vous rapprocher, ça serait peut-être mieux. Non? Ah, je sais comment ça s'ouvre. Vous m'entendez? Non. Vous m'entendez là? C'est mieux?
Je vais éteindre celui-là.
Ouais. Donc voilà ce que je vous propose. Un petit mot sur Isaïe, un petit mot sur le livre. Et puis ensuite, nous allons regarder ensemble un petit peu en détail deux textes que j'ai choisis. Et ensuite, dans la seconde étape, je vous chargerai d'un troisième texte que vous allez étudier, comme d'habitude, dans cette école biblique, en petits groupes, avec des questions pour essayer de progresser. Puis je reprendrai un instant pour faire une conclusion, si vous voulez bien, après ce travail en groupe, en équipe. Alors d'abord le prophète. Isaïe est issu d'une famille de notables de Jérusalem. C'est un aristocrate, père de plusieurs enfants et proche des fonctionnaires royaux. Il fait lui-même de la haute politique, puisqu'on le voit intervenir à plusieurs reprises auprès des rois du moment, en particulier auprès du roi Akaz, pour le réconforter quand le royaume du Nord menace d'envahir son royaume, le royaume du Sud, vers -735, ou auprès du roi Ézéchias, son successeur, pour condamner l'alliance militaire qu'il a décidé de faire avec l'Égypte vers -703. La maîtrise de soi, la distinction le caractérise, ce qui ne l'empêche pas de critiquer les puissants qu'il fréquente avec un rude franc-parler. Il leur dit, par exemple, de la part de Dieu, « C'est vous qui avez dévoré ma vigne. De quel droit écrasez-vous mon peuple et broyez-vous la face des indigents ?» Son message, comme tous les prophètes ont des points forts dans le message qu'ils sont chargés de transmettre, celui d'Isaïe, il est centré, on va le voir tout de suite, sur la sainteté de Dieu, le temple, Jérusalem, et surtout, la dynastie davidique, c'est-à-dire les promesses que Dieu a faites au roi David et que Dieu est en train d'accomplir avec ses méthodes à lui. Ce qui a valu à Isaïe le nom de prophète messianique, puisque donc il parle à très nombreuses reprises, on le verra, du Messie. Donc voilà pour le prophète. Le livre d'Isaïe, vous l'avez vu si vous l'avez un peu feuilleté avant de venir ici, il est très long, il a 66 chapitres, et il couvre une période de 300 ans, du 8e siècle au 5e siècle avant Jésus-Christ. Par conséquent, il ne peut pas être l'œuvre d'un seul auteur. Les spécialistes distinguent trois recueils. Le premier Isaïe, qui va des chapitres 1 à 39, qui est considéré comme transmis par Isaïe lui-même, sous les règnes des rois Akaz et Ézéchias, dont je vous parlais à l'instant. Et on pense qu'il a été remanié d'ailleurs ensuite, plus tard par ses disciples, des disciples à lui. Le deuxième Isaïe, qui va du chapitre 40 à 55, a été écrit à la fin de l'exil à Babylone, c'est-à-dire vers -538. Il est l'auteur d'un prophète inconnu, disciple d'Isaïe. Et le troisième Isaïe, qui se déroule du chapitre 56 à 66, est postérieur à l'exil à Babylone, et a été écrit par différents auteurs. Donc vous voyez, c'est quelque chose de peut-être moins facile à appréhender que quand on a un seul prophète unique qui transmet un message dans un temps limité. En particulier au niveau historique, si j'ai le temps après, je vous en parlerai. C'est une histoire extrêmement chaotique et compliquée, donc les textes qui ont été écrits à un moment donné de l'histoire, forcément, ils font allusion. Donc pour nous, on est peut-être un petit peu perdu. Donc voilà ce que je vous propose de regarder ensemble. Vous m'entendez bien là, c'est bon? Toujours. D'accord, je vais essayer de ralentir. Donc, je vous redis les trois livres d'Isaïe. Premier Isaïe, de 1 à 39. Deuxième Isaïe, de 40 à 55. Et troisième Isaïe, de 56 à 66. C'est le chapitre, là. Voilà. Donc, ce que nous allons regarder maintenant ensemble, dans la première partie donc, du livre d'Isaïe, le premier Isaïe, nous allons voir sa vocation. Et d'autre part, un poème qu'on appelle le chant de la vigne. Dans la deuxième partie du livre, vous étudierez en équipe, avec quelques indications que je vous donnerai avant, le quatrième champ du serviteur. Et si vous en avez le courage, on n'aura probablement pas le temps, sûrement pas le temps ici, je vous conseillerai à la fin de lire ce qu'on appelle les trois oracles messianiques. Et si on a le temps, je vous donnerai quelques indications pour que vous ne soyez pas perdus. Mais ce n'est pas sûr qu'on y arrive, même si je parle vite. Donc, la vocation d'Isaïe. C'est au chapitre 6, les versets 1 à 13. Les vocations, les récits de vocation sont très nombreux dans l'Ancien Testament. Vous en connaissez sûrement Abraham, Moïse, Samuel, Jérémie, Ézéchiel et j'en passe. Ils sont tous construits sur un schéma comparable qu'on va d'ailleurs retrouver en partie ici. L'étrange est que pour Isaïe, sa vocation n'est pas située au début du livre, comme c'est le cas habituellement chez tous les autres prophètes, mais seulement au chapitre 6. En réalité, elle constitue le prologue d'un recueil qui suit et qu'on dit les textes de l'Emmanuel, c'est-à-dire donc du Messie, ce qui justifie cette position, non pas au début, mais en cours de route, si je puis dire. Alors le prophète est très précis, la vocation a eu lieu, dit-il, l'année de la mort du roi Ozias, donc en moins 740, alors que le prophète avait donc déjà eu une activité importante auprès du roi pendant la guerre syro-éphraïmite. On peut dire qu'Isaïe est un géant parmi les prophètes, parce qu'il voit Dieu en personne, alors que d'autres prophètes, comme Abraham, Samuel, Jérémie, l'entendent, mais ne le voient pas. Moïse, c'est vrai, a vu quelque chose, je ne sais pas comment dire, ce fameux buisson ardent, mais on peut dire que ce buisson ardent, ça n'était pas Dieu lui-même visible avec un corps, un visage, hein, c'était une représentation un peu de Dieu. Tandis que lui, Isaïe, non seulement il va voir Dieu réellement, mais il assiste à la liturgie céleste, je vais vous lire à l'instant le passage que vous avez peut-être déjà lu, il entend le chant des séraphins, lequel chant des séraphins est celui que nous répétons nous-mêmes à chaque messe quand nous disons « Saint, 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 le Seigneur ». Vous voyez, ça vient de ce passage. Donc, je vous lis la vocation, ou plus exactement, je vais vous en lire la première partie, des versets 1 à 8, parce que après, ça n'est plus à proprement parler de la vocation, mais la mission que Dieu lui confie. Donc, si on lit tout d'un seul coup, ça va être plus compliqué. Donc, je vous lis les versets 1 à 8 avec ma traduction, qui est la Bible de Jérusalem, qui n'est pas forcément la vôtre, mais ce sont des nuances. L'année de la mort du roi Ozias, donc chapitre 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur, assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun six ailes, deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, deux pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles, « Saint, 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 et Yahvé Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. » Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris, et le temple était plein de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi. » Yahvé Sabaoth. L'un des séraphins vola vers moi en tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit « Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Alors, j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?» Et je dis « Me voici, envoie-moi. » Donc vous voyez que dans ce passage, Dieu est évoqué comme un monarque. On nous parle d'un trône, qui plus est surélevé, d'un manteau de cour. Il est entouré de courtisans, ici ce sont des créatures spirituelles, les séraphins. Il y a des fumées qui rappellent celles de l'encens qu'on utilisait dans le sanctuaire. Tout cela manifeste la gloire et la sainteté de Dieu par opposition au péché d'Isaïe et du peuple. ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cette gloire de Dieu par rapport à la, aux créatures pécheresses est évoquée tout au long de la Bible. Et puisqu'on est dans une vocation, je vous rappelle celle de Moïse. Quand Moïse s'approche du buisson ardent dans le désert, qui représente quelque chose de Dieu, Dieu ne lui dit pas « avance », il l'appelle, c'est vrai, mais il lui dit « ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ». Donc toujours cette notion de distance entre la sainteté, la gloire de Dieu, notre péché et notre petitesse. Dans ce court passage, les verbes « voir » et « entendre » jalonnent le récit. Alors, regardons ce qui se passe exactement. Au début, Isaïe voit Dieu, les séraphins et le décor somptueux. Ça, c'est au niveau de la vision. Et il entend le chant des séraphins, le fracas des portes du sanctuaire qui tremblent. Et c'est à ce moment-là qu'il prend conscience, on le comprend, qu'il prend conscience de son péché. Il est anéanti. Malheur à moi, je suis perdu. En effet, dans l'Ancien Testament, on ne cesse de répéter que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Je ne sais pas toujours, pour faire allusion toujours au même à Moïse qu'on connaît bien, Moïse au buisson ardent, on nous dit que quand il voit le buisson et qu'il entend la voix de Dieu, il se voile la face pour ne pas voir Dieu face à face. Et d'ailleurs, dans la suite de sa vie, il va faire plusieurs rencontres avec Dieu, mais à chaque fois, par exemple, Dieu lui dit « Tu vas entrer dans l'anfractuosité du rocher, je vais passer devant toi, mais je passerai de dos, parce que tu ne peux pas me voir. » Et un autre passage, il dit « Je passerai devant toi, mais je mettrai ma main pour que tu ne me vois pas. » Vous voyez toujours cette... Or lui, Moïse, il voit Dieu. C'est pour ça que je vous dis que c'est un géant. Alors à ce moment-là, il voit Dieu. Isaïe, excusez-moi. Excusez-moi, bah oui, alors là, oui, surtout arrêtez-moi. Alors à ce moment-là, l'ange lui purifie les lèvres avec une braise qu'il a prise sur l'autel. Et à partir de ce moment-là, tout change. C'est-à-dire qu'il peut maintenant entendre Dieu et qu'il va communiquer avec lui. Dieu qui dit « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et Isaïe qui répond « Me voici, envoie-moi. » Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où il est purifié de son péché, que Dieu va lui confier la mission. Alors, si on regarde la structure de cette vocation qui, comme je vous l'ai dit, rappelle les autres vocations dans la Bible, il y a d'abord ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. La vision et les paroles des anges. Et puis, ici, la vision et les paroles des anges. Et puis ensuite, dans toutes les vocations, il y a une mission. Et cette mission, elle est toujours en faveur du peuple et en vue du salut du peuple. Mais ce qui se passe dans la plupart des vocations, c'est que le prophète, à ce moment-là, est écrasé par sa petitesse, son indignité. Le prophète fait des objections à cette mission. Alors, Isaïe n'en fait pas à proprement parler, il ne dit pas à Dieu, mais je ne peux pas faire ce que tu me dis. Mais par contre, il constate son péché et il dit, je suis un homme perdu. Voyez, donc, c'est d'une certaine manière une objection. Alors, à ce moment-là, dans tous les récits de vocation, Dieu donne un signe pour réconforter celui qui l'appelle et supprimer les objections. Si j'en reviens à Moïse, pour rester dans la même tonalité, Moïse, quand il entend la mission dont il est chargé, d'aller vers Pharaon pour libérer le peuple, il en fait trois objections. Lui, alors, il est vraiment récalcitrant, hein, si je puis dire. Il en fait trois. La première, il dit, mais quand je vais aller trouver les gens, ils vont me dire, qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? Je ne te connais pas. Quel est ton nom? Alors, Dieu lève l'objection en disant, je suis. La deuxième objection, il dit, mais jamais, jamais Pharaon, jamais on va me croire. Je ne suis pas puissant, je ne suis rien du tout. Et là, Dieu fait deux miracles. Il met le paquet, si je puis dire, pour Moïse. Il fait deux miracles pour Moïse. Un premier miracle, il transforme son bâton en un serpent, en disant, bah, tu vois, tu peux tout, avec moi, tu peux tout. D'ailleurs, il le dit, je serai avec toi. Et le deuxième miracle, le plus étonnant pour nous, il donne la lèpre à sa main, en une seconde, il rend sa main lépreuse, et puis il lui dit, mais rentre-la dans ton vêtement, et quand la main ressort, elle n'a plus la lèpre, voyez. Donc, deuxième manière de lever l'objection. Et puis la troisième, le pauvre Moïse essaie encore d'échapper à cette mission redoutable. Et il dit, mais je ne sais pas parler. Ce qui a fait penser d'ailleurs à bien les exégètes qu'il était bègue. Bon, on ne sait pas s'il était bègue, mais il dit, je ne sais pas parler, je ne peux pas aller trouver Pharaon. Et à ce moment-là, Dieu lève aussi cette objection en lui disant, tu as un frère, Aaron, qui parle très bien, je vais l'envoyer vers toi, il va venir te retrouver, et à vous deux, vous ferez un binôme. Voyez. Donc ici, le signe que donne Dieu pour réconforter celui qui l'appelle, Isaïe, c'est la purification par la braise. Voilà, donc ce que je voulais ajouter, deux ou trois petites remarques pour vous montrer à quel point c'est magnifique de lire la Bible, prendre le temps de la relire et de la digérer, de la manger. Vous savez, quand on lit un texte biblique pour en tirer le maximum de profit, il faut sans cesse se poser des questions. Par exemple, pourquoi on me donne tel détail ? Ou inversement, pourquoi est-ce qu'on passe sous silence telle chose qui me paraît tellement importante ? Alors, je vais vous montrer ici trois petits exemples. À propos des séraphins, on nous raconte qu'ils ont trois paires d'ailes, donc six ailes, peut-être un petit peu étonnant. Et en particulier, on nous dit qu'il y a une paire d'ailes pour voler. Ça, on comprend, puisque l'ange est un messager entre Dieu et l'homme, et que, étant auprès de Dieu au ciel, si je puis dire, pour venir rencontrer les hommes, il faut bien qu'il y ait un moyen de transport. Donc, on lui donne des ailes pour voler. Dans la plupart de l'iconographie, on représente bien les anges, en effet, avec des ailes. Ça vient, par exemple, de ce texte-là qui nous le précise. Donc, deux ailes pour voler du ciel vers la terre. Il y en a une paire aussi pour se cacher la face. Ça fait allusion à ce que je disais tout à l'heure. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Donc, symboliquement, voilà, la distance entre Dieu et même les séraphins fait qu'ils ont deux ailes pour se cacher la face. Puis on nous dit une troisième pour se cacher les pieds. Je me suis toujours demandé pourquoi j'allais se cacher les pieds. En fait, c'est un mot pudique dans la Bible pour parler du sexe. Donc, se cacher le sexe, d'où cette question non résolue à ce jour, quel est le sexe des anges ? Puisque les ailes le cachent, on ne peut toujours pas répondre. Donc voilà un petit exemple de ces trois paires d'ailes qui peuvent nous interpeller, nous faire découvrir des choses. Ce que ça nous fait toujours découvrir quand on se pose des questions et qu'on y trouve les réponses, c'est à la fois les choses sur qui est Dieu et les choses, ce que nous sommes nous par rapport à lui. Vous voyez, c'est toujours à double direction. Deuxième petit exemple, on nous dit « la braise touche les lèvres d'Isaïe ». Je me suis demandé pourquoi les lèvres ? Eh bien parce que le prophète transmet la parole de Dieu. Donc il doit être particulièrement sanctifié dans ce avec quoi il va transmettre cette parole. C'est pour ça que c'est les lèvres qui sont choisies. Et enfin, il y a une troisième petite question qui vous a peut-être interpellé. Quand Dieu parle, pour la première fois, quand on l'entend, il dit « Qui enverrai-je ? » Et il ajoute « Qui ira pour nous ?» Ce qui est quand même étonnant. Alors ça, je vais vous l'expliquer un petit peu après, quand on va être dans la seconde partie. Vous voyez, donc là aussi, ça vaut la peine de se poser la question. Alors maintenant, on va voir en quoi consiste la mission d'Isaïe. Puisqu'il y a une vocation et un appel, c'est une vocation et un appel pour faire quelque chose. Quelle est sa mission ? Donc je vous lis maintenant à partir des versets 9 à 13. Dieu me dit, va, et tu diras à ce peuple, écoutez, écoutez et ne comprenez pas. Regardez, regardez et ne discernez pas. Appesantis le cœur de ce peuple. Rends-le dur d'oreille. Englue-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Et je dis, jusqu'à quand, Seigneur ? Il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient détruites et dépeuplées, les maisons inhabitées, que le sol soit dévasté, désolé, que Yahvé en chasse les gens et qu'une grande détresse règne au milieu du pays. Et s'il en reste un dixième, de nouveau il sera dépouillé, comme le térébinthe, comme le chêne, qui, une fois émondés, n'ont plus qu'un tronc. Leur tronc est une semence sainte. Alors, vous voyez que, ici, la mission d'Isaïe, je vous dis tout de suite le nom, puis on va comprendre pourquoi, ça consiste, c'est pas une mission facile, ça consiste à révéler le drame de l'endurcissement des cœurs. C'est ça, son rôle. Le peuple, en effet, est appelé à être saint comme Dieu, à vivre selon la justice. Mais Dieu dit dans la bouche d'Isaïe, c'est un peuple à la nuque raide, qui m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ça veut dire qu'il refuse de se convertir. Dès lors, la mission d'Isaïe consiste à inviter le peuple à écouter Dieu. Et comme ces exhortations resteront sans effet, puisque le cœur de ce peuple est endurci, il deviendra alors manifeste que le peuple refuse de suivre le plan de Dieu, pour suivre le sien propre. C'est ce qu'on appelle l'endurcissement. Alors, il ne faut pas croire qu'on se dit, parce que souvent on a tendance, et c'est une erreur, de se dire, oh oui, mais ça c'est du temps de l'Ancien Testament, maintenant c'est plus pareil, avec Jésus tout est changé. Je vous cite un tout petit passage de la bouche même de Jésus, dans Marc, au chapitre 4, au verset 12, où Jésus lui-même dit, alors, je vous le disais avant, il vient de raconter une parabole. Ses disciples sont un peu perdus parce qu'ils ne comprennent pas le sens de la parabole. C'est la parabole du semeur. Et donc, ils disent, explique-nous la parabole du semeur. Et pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas ? Et Jésus dit, c'est exprès. Si je parle en parabole, écoutez, c'est exactement ce qu'a dit Isaïe, enfin Dieu à Isaïe, afin, donc je parle en parabole, afin qu'ils, c'est le peuple, qu'ils aient beau regarder et ne voient pas, entendre et ne comprennent pas. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu désire cet endurcissement. Bien au contraire, il n'a qu'un désir qu'on n'ait pas le cœur endurci. Mais il le prévoit dans sa science souveraine qui est en dehors du temps. Il sait que c'est ainsi. Et il est indispensable que la vérité éclate au grand jour. Il faut donc que l'aveuglement bien réel de ce peuple, l'aveuglement volontaire de ce peuple pécheur, aille jusqu'au bout. Et que le pays soit donc dévasté, qu'il ne reste plus, dit Dieu, qu'un dixième du peuple, et encore même pas un dixième, puisqu'à la fin il dit ça va continuer, tout simplement pour que le plan de salut de Dieu puisse enfin se réaliser. Cette fois avec le consentement d'un petit reste, qui lui sera resté fidèle à Dieu jusqu'au bout. Alors, Dieu fera germer de ce petit reste une semence sainte, c'est-à-dire le Messie. C'est ce qu'il dit ici, c'est la dernière toute petite partie du dernier verset 13, en parlant de ces arbres qui sont émondés, taillés, coupés, il ne reste plus que le tronc. Il dit « leur tronc est une semence sainte ». Donc voilà, et cette semence sainte permettra à Dieu, c'est la réalisation par Dieu de la promesse qu'il avait faite au roi David d'une descendance qui serait pour lui, Dieu, un fils. Et pour nous, cette descendance, bien sûr, c'est le Messie, c'est Jésus. Alors là, on comprend mieux pourquoi la vocation d'Isaïe se situe au début de ce recueil de textes, puisque justement, ce sont les textes dits de l'Emmanuel, c'est-à-dire trois prophéties qui annoncent la venue du Messie. Donc c'est pour ça que ce n'est pas au début du livre. Il y a une cohérence dans cette structure. Donc vous voyez que ce passage, malgré l'endurcissement du peuple qui est développé dans plusieurs avec sévérité, hein, pendant plusieurs versets, il s'achève sur une petite note d'espérance. Dieu enverra bien un sauveur. Donc vous voyez, ce texte de la vocation d'Isaïe, il est un des plus beaux de l'Ancien Testament. Il nous parle de la sainteté de Dieu, on a parfois bien besoin de se la rappeler. Il nous parle du péché de l'homme, on a toujours besoin qu'on nous rappelle notre péché. Il nous parle, et ça on a du mal à l'accepter, de la nécessité du châtiment face au péché pour que le projet et le plan de Dieu s'accomplissent. Il nous parle de la mission du prophète vis-à-vis du peuple et de sa foi inébranlable vis-à-vis de Dieu. Et surtout et encore plus, c'est ce que vous découvrirez dans tout le prophète Isaïe, il nous parle de la fidélité de Dieu qui tient toujours ses promesses malgré les péripéties que l'homme impose à l'histoire. Alors, dans les deux textes qu'on va voir ensemble, celui-ci et le chant de la vigne, je propose un tout petit paragraphe que j'appelle pour aller plus loin, donc quelques pistes qui nous permettent de parce que c'est l'intérêt bien sûr de lire la Bible, de revenir vers nous, hein, de se dire qu'est-ce que ça change pour moi. Alors la première question, le premier point, avons-nous conscience que la question de Dieu dans ce texte, qui enverrai-je, qui ira pour nous, est celle qui a retenti au sein de la Trinité avant l'Annonciation et l'Incarnation. Voyez, Dieu dit qui enverrai-je, c'est le Dieu unique, qui ira pour nous, il s'agit là de la Trinité. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire au moment de l'Annonciation et de l'Incarnation, celui qui répond « Envoie-moi », c'est le Fils éternel de Dieu, et non pas le prophète Isaïe. Nous sommes là au cœur du mystère de la vie trinitaire et de notre salut. La deuxième chose que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est, enfin il me semble, c'est pas votre cas, en tout cas c'était le mien, il n'est pas étonnant que cette description triomphante, triomphale, je ne sais pas comment dire, de la gloire divine, ne nous soit peut-être pas très accessible. C'est tout simple. C'est parce qu'on est entre la vision d'Isaïe, qui nous est racontée là, et nous aujourd'hui, il y a eu l'incarnation, et le Tout-Puissant s'est fait l'un de nous, Emmanuel, Dieu avec nous, semblable à nous en toutes choses excepté le péché. Nous le tenons dans nos mains à chaque Eucharistie. Nous le contemplons à l'adoration eucharistique. Nous le voyons dans le visage de nos frères. C'est donc une proximité inouïe, inimaginable pour Isaïe. Alors le trône, les séraphins, les cris, la fumée et le « je suis perdu » du prophète sont pour nous remplacés par les images de la crèche, la silhouette de notre Dieu pendu au bois de la croix. sur laquelle néanmoins est bien écrit Jésus, roi des Juifs. Hein, rien ne change, c'est toujours vrai, roi des Juifs, mais autrement que Isaïe l'a vu. Et d'ailleurs, les textes liturgiques utilisés pour la fête du Christ roi, à la fin de l'année liturgique, sont tirés de Luc, chapitre 23, verset 38, où on nous explique que sur la croix, Jésus est roi, puisqu'il y a marqué « roi des Juifs ». Alors, tout ceci ne retire rien, bien sûr, à la bien réelle gloire de Dieu. Mais grâce à l'incarnation, à la rédemption, nous avons maintenant le privilège de pouvoir nous écrier en contemplant notre Dieu « nous sommes sauvés » et non pas comme Isaïe « je suis perdu ». Merci Seigneur. Alors si vous voulez maintenant, on va regarder le chant de la vigne, deuxième petit texte dont je vous parlais, Isaïe au chapitre 5, versets 1 à 7. Pour expliquer les rapports de Dieu avec son peuple, le prophète se sert ici d'une parabole qui est à la fois un magnifique chant d'amour et un sévère réquisitoire. C'est un texte court et admirablement structuré. Je vais vous le lire. Donc 5 à partir du verset 1. Excusez-moi, 5 à partir du verset 1, de 1 à 7. Vous m'arrêtez si je vais trop vite ou si vous... Hein, tant pis, on n'est pas tellement nombreux, je peux... Alors, c'est le prophète qui parle. Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il la bêcha, l'épierra et y planta du raisin vermeil. Au milieu, il bâtit une tour. Il y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins. Elle donna des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Que pouvais-je faire encore pour ma vigne que je n'ai fait? Pourquoi espérais-je avoir de beaux raisins et a-t-elle donné des raisins sauvages? Et maintenant que je vous apprenne ce que je vais faire à ma vigne, en ôter la haie pour qu'on vienne la brouter, en briser la clôture pour qu'on la piétine, j'en ferai un maquis. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Ronces et épines y croîtront. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Eh bien, la vigne de Yahvé Sabaoth, c'est la maison d'Israël. Et l'homme de Juda, c'est son plan de choix. Il attendait le droit, et voici l'iniquité. La justice, et voici les cris. Donc dans ce texte, si vous l'avez sous les yeux, ça va être plus simple. Dans ce texte, le prophète Isaïe se présente comme l'ami de Dieu, son porte-parole. C'est tout naturel, c'est bien en effet la mission du prophète. C'est ainsi que Isaïe la comprend. Alors, les acteurs au début. Les acteurs, c'est le prophète, cet ami, mystérieux au début, la vigne, le peuple, qui s'appelle tantôt Jérusalem, tantôt Juda, tantôt Israël. Et c'est seulement à la fin qu'on voit apparaître Dieu. Dans les deux premiers versets, si vous les avez sous les yeux, c'est le prophète qui parle, c'est Isaïe. Et il exprime le rapport de l'ami avec sa vigne, ce qu'il fait à sa vigne. Puis ensuite, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, c'est l'ami lui-même qui prend la parole. Il faut arriver dans l'Ancien Testament, c'est toujours un peu compliqué. Tantôt c'est Dieu, tantôt c'est nous. Donc il faut arriver à voir qui parle. Donc à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, c'est l'ami lui-même qui prend la parole, qui interpelle ceux qui écoutent la parabole, c'est-à-dire le peuple, en leur annonçant ce qu'il va faire maintenant à sa vigne. Et au verset 7, jusqu'à la fin, 7 et 8, c'est le prophète qui reprend la parole pour dévoiler le sens caché de la parabole. Nous découvrons alors que cet ami, c'est Dieu, et que la vigne, c'est le peuple. Ainsi, vous voyez qu'au cours de ce très court texte, la situation des partenaires de l'histoire s'inverse complètement. L'ami qui aimait sa vigne et lui faisait du bien devient la cause de tous ses malheurs. De même, les gens de Juda qui, au verset 3, sont appelés à juger la situation. Vous voyez, au verset 3, 1, « Et maintenant, habitants de Jérusalem, gens de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. » Ils sont pris à témoin. Eh bien, au verset 7, ils deviennent les accusés. La vigne de Yahvé, c'est la maison d'Israël, donc c'est celle qui fait plus mal. Donc, il y a une inversion brutale de la situation. Seule la vigne ne change pas du tout au tout le long du texte, elle donne du mauvais raisin du début à la fin. Or, la vigne, c'est nous. Enfin, c'est le peuple de Dieu, donc maintenant, nous. Le verbe attendre ou espérer, ça dépend de vos traditions, de traduction, est cité 3 fois. C'est vraiment le mot clé qui exprime à la fois toute la patience, tout l'amour, toute l'espérance de Dieu vis-à-vis de sa vigne, de son peuple, et donc sa déception immense, donc sa déception aussi vis-à-vis de nous. Vous savez que l'astuce de toute parabole, c'est d'amener le véritable coupable, parce qu'en général, il y a une accusation, pas toujours, mais en général, une accusation, c'est d'amener le véritable coupable à se reconnaître pécheur et à se condamner lui-même, je dirais, presque sans s'en rendre compte. Je vais faire un tout petit détour, j'espère qu'on a le temps. Oh là là. Je vais faire un tout petit détour avec David. Et vous savez que David est tombé amoureux de Bethsabée, qui était une femme mariée, à un de ses officiers qui s'appelait Uri, et que pour prendre Bethsabée pour lui, il a envoyé à la mort Uri le Hittite. Et quand Nathan vient le voir de la part de Dieu pour lui dire « mais ce que tu as fait est abominable », au lieu de lui dire « regarde, tu as fait ça, c'est abominable », il lui raconte une parabole lui aussi. Il lui dit « un homme très riche avait plein de brebis, il y en a un autre, un pauvre qui n'en avait qu'une, et le très riche, ça s'est passé dans ton royaume, et le très riche, il a pris la brebis de celui qui était très pauvre, l'unique brebis. Et David dit aussitôt « dis-moi qui c'est, je vais le faire tuer ». Et Nathan, le prophète, lui dit « bah, c'est toi, tu as pris la femme d'Uri, tu as pris Bethsabée ». Donc voilà. Alors quand l'identité, ça c'est très important aussi de s'en rendre compte, une grande espérance, quand l'identité de l'ami, c'est-à-dire Dieu, et de la vigne, c'est-à-dire le peuple, nous, sont dévoilées, le texte, regardez, s'arrête brusquement. On ne sait pas si Dieu va exécuter ses menaces. On ne dit pas ce qui est arrivé. Et j'ose espérer et croire que ce silence signifie qu'il y a un délai et que la conversion est encore possible. Donc je vous propose là comme la dernière fois quelques petites pistes pour aller un peu plus loin par rapport à nous, pour que l'Ancien Testament nous touche personnellement. Donc ce texte décrit le rapport entre Dieu et Israël, son peuple. Ça veut dire que ce message est adressé à chacun de nous. Dieu attend de notre part de beaux fruits et nous en donnons, parfois, souvent, à vous de voir, de mauvais. Dieu espère le respect du droit et de la justice. Il ne voit qu'injustice. Il entend le cri des malheureux monter jusqu'à lui. Là encore, l'Ancien Testament nous aide à nous situer, nous aussi, vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je reconnais tout le bien qu'il m'a fait depuis que j'existe? De même qu'il soigne sa vigne avec amour. Et si je le reconnais, ce qui est déjà bien, est-ce que je pense à lui en rendre grâce? Donc à nous de regarder dans nos vies. Est-ce que je reconnais les mauvais fruits que je donne parfois? Non pas pour me culpabiliser, ce qui ne servirait pas à grand-chose, mais pour me convertir et donner de beaux raisins comme Dieu est en droit d'en attendre de moi. Alors j'avais envie de vous proposer de lire, je vais le faire quand même, tant pis, voilà, parce que ce thème de la vigne et de la relation entre Dieu et son peuple à travers ce thème de la vigne qui ne donne pas de bons fruits, il est très très souvent cité dans l'Ancien Testament, mais aussi par Jésus. Donc ça vaut la peine de faire un tout petit détour. Donc c'est la fameuse parabole du figuier stérile que j'ai pris dans Luc, chapitre 13, versets 6 à 9, où Jésus, à notre intention, reprend exactement le même thème. Simplement, la vigne, là, est remplacée par un figuier. Ça revient au même. C'est une plante qui ne joue pas son rôle, qui est de donner des fruits. Donc il reprend le même thème. Je vous le dis, c'est très court. Jésus disait encore une parabole que voici. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient chercher des fruits, donc sur le figuier, hein, cette fois-ci. Il vient chercher des fruits, il n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc userait-il la terre pour rien ?» L'autre lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Vous voyez, le maître du figuier, je vais vite, c'est Dieu, il n'y a aucun doute. Le cultivateur à qui Dieu s'adresse, c'est Jésus. Le figuier, c'est nous. Le maître veut faire couper l'arbre puisqu'il ne donne pas de fruits. Et Jésus, le cultivateur, propose de bêcher autour et de mettre du fumier pour le sauver de cette stérilité. En parlant ainsi, c'est à son incarnation qu'il fait allusion. Il vient travailler notre humanité de l'intérieur en se faisant homme pour la rendre féconde. Il donne de sa personne, il s'implique et il demande un délai d'un an à son Père avant que le jugement ne soit prononcé. C'est ce que Luc appelle une année de grâce du Seigneur, une année où tout est encore possible. Eh bien, c'est le temps qui est donné à chacun de nous jusqu'à notre mort. Vous voyez les échos qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si vous avez le temps, relisez aussi, autour du thème de la vigne, relisez aussi dans Jean, au chapitre 15, verset 1, cette magnifique épopée sur la vigne, ou relisez le psaume 79-80 dans l'Ancien Testament, à partir du verset 9, vous y découvrirez des tas de choses par rapport à ça. Et j'en arrive enfin à notre troisième morceau, qui est les oracles du serviteur souffrant. Je vais vous donner quelques indications, et après, en équipe, avec des questions, voilà, en équipe, vous irez approfondir ce texte. Alors, nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Jérusalem a été prise en 587 par Nabuchodonosor. La population a été déportée à Babylone. C'est ce qu'on appelle l'exil, avec un grand E. Plus de terres, plus de temples, donc de cultes possibles. Israël risque même de totalement disparaître. C'est alors que le prophète Isaïe réveille l'espérance. Donc l'exil, c'est 587-538, à peu près 50 ans. Donc ce passage se trouve dans le deuxième Isaïe. Hein, je vous ai dit au début, trois recueils, ça c'est dans le deuxième Isaïe, qui est un recueil qui est appelé le livre de la consolation, parce qu'il commence par ces mots, « Consolez, consolez mon peuple ». Dans cet ensemble se détachent quatre textes. Alors malheureusement pour nous, ils sont dispersés, ils ne sont pas à la suite, donc je vais aller les chercher, c'est un peu plus compliqué. Quatre textes qu'on appelle les chants du serviteur, ou les poèmes du serviteur. Je vous les cite. Au chapitre 42, versets 1 à 7, c'est le premier, il faut comprendre pour pouvoir comprendre le quatrième, il faut comprendre ceux d'avant. Au chapitre 42, versets 1 à 7, c'est le premier chant. Dieu y parle d'un serviteur qui est l'alliance entre lui et le peuple, mais aussi la lumière des nations païennes. Ensuite, chapitre 49, versets 1 à 9, deuxième chant du serviteur. Le serviteur parle lui-même, il se déclare choisi par Dieu et porteur d'une parole qui juge, et il fait l'expérience du mépris et du rejet. Troisième chant, chapitre 50, versets 4 à 9, le serviteur toujours se présente comme un innocent qui souffre sans se révolter, que Dieu accompagne dans son épreuve et que Dieu justifie. Enfin, le quatrième, le nôtre, du chapitre 52, verset 13, au chapitre 53, verset 12, il raconte l'épreuve et la mise à mort injuste de ce serviteur, puis son relèvement face à ses ennemis, et surtout, c'est ça qui est très important pour nous, en quoi cette épreuve est source de salut pour les multitudes. C'est donc ce passage qu'on va regarder maintenant. Je ne vais pas vous le lire, parce que vous allez vous le lire, ça va me gagner un petit peu de temps. Je vais vous dire juste deux petits mots pour être plus à l'aise dedans. D'abord, qui est ce serviteur? Alors, c'est très mystérieux, ça n'est pas expliqué. Il reste anonyme d'un bout à l'autre, pendant les quatre chants. Les exégètes en discutent encore. Est-ce que ça désigne un individu unique, ou ce qu'on appelle une personnalité corporative, c'est-à-dire une figure collective, telle que le peuple juif? Bien évidemment, c'est cette interprétation que retient le judaïsme. Il s'agit de ces persécutions et Dieu qui les accompagne. C'est comme ça qu'ils ont relu leur histoire à toutes les persécutions de leur vie, particulièrement la dernière, à propos de l'Holocauste. Alors le christianisme, lui, a fait une option complètement différente. Il en a fait un texte clé de sa foi en déclarant que c'est de Jésus, Messie, dont il s'agit, que Jésus accomplit ainsi les prophéties de l'Ancien Testament, dont les prophéties d'Isaïe. Donc pour nous, c'est très clair, pour nous chrétiens, le quatrième chant rapporte la passion et la résurrection de Jésus. Donc voilà pour la question qui est ce serviteur. Alors ce que je vais vous montrer là, c'est à quel point il est indispensable pour nous d'aller puiser dans l'Ancien Testament pour comprendre ce qui se passe avec Jésus dans le Nouveau Testament, et en particulier quand il s'agit de la passion et de la mort du Christ. Je vais vous donner des petits exemples que je prends dans le Nouveau Testament pour vous montrer que ça vient directement d'Isaïe. Premier exemple, Jean-Baptiste. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, il présente Jésus d'une façon tout à fait curieuse, dès le début, comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pourquoi l'agneau de Dieu? Dans Isaïe, au verset 7, parce que Isaïe dit « comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir ». Vous voyez, c'est exactement le même terme qui est repris. Et quand il nous dit l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pourquoi il dit ça? Parce que dans Isaïe, au verset 5, il est dit « le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, hein, sur ce fameux serviteur, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison ». Ou au verset 12, Isaïe nous dit « il s'est livré lui-même à la mort alors qu'il portait le péché des multitudes ». Vous voyez, cette phrase de Jean-Baptiste, elle reprend tout ce que je viens de vous dire, et bien d'autres choses, bien sûr, dans Isaïe. Deuxième exemple, les récits de la Passion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on peut dire, mais enfin bon, d'accord, mais pourquoi? On nous dit avec insistance, au cours des différents procès, que Jésus n'ouvre pas la bouche. Dans Luc, par exemple, on nous dit Hérode l'interrogea avec force, interrogeait Jésus, hein, il s'agit de Jésus. Hérode l'interrogea donc avec force, mais Jésus ne répondit rien. Ou dans Marc, à propos du procès avec Pilate, Pilate l'interrogea, « Tu ne réponds rien, vois tout ce dont il t'accuse. » Mais Jésus ne répondit rien. Et bien, ça reprend Isaïe au verset 7, « Il n'ouvrait pas la bouche comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. » Troisième petit exemple, dans Luc, en particulier, il est développé l'exemple des deux larrons, l'épisode des deux larrons crucifiés à droite et à gauche de Jésus. Ça reprend Isaïe au verset 12, « Il a été compté parmi les malfaiteurs. » Vous voyez, c'était aussi prophétisé à l'avance. Ou encore mieux, le récit d'Emmaüs par Jésus lui-même, quand il parle de lui, sur la route, quand il marche avec les deux pèlerins d'Emmaüs, il se présente comme accomplissant tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Donc en interprétant l'Écriture et en expliquant tout ce qui, dans les prophètes, le concernait. Ça, c'est dans Luc au chapitre 24, le récit d'Emmaüs. Et je termine avec Paul. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, Paul dit « Celui qui n'avait pas commis de péché, Dieu l'a fait péché pour nous. » Vous voyez, on retrouve ces allers-retours entre l'Ancien Testament qui nous aide à comprendre le Nouveau. Donc je voulais vous dire en particulier, profitez-en, si vous avez besoin d'être convaincu de l'extraordinaire corrélation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, profitez-en pour relire le psaume 21-22 qui décrit la passion du Christ dans les moindres détails d'une façon inimaginable. Les crachats, le vêtement tiré au sort, relisez-le à la lumière de ce que Jésus a vécu dans sa passion. Alors je vous donne simplement, avant qu'on se sépare, le plan du passage que vous allez étudier. Le quatrième chant, d'accord? Le prologue, c'est chapitre 52, versets 13 à 15. Prologue. Ça raconte par anticipation ce qui va suivre, une épreuve suivie d'un dénouement inattendu et on ne comprend pas bien ce que c'est. Le récit proprement dit, c'est chapitre 53, versets 1 à 10. Vous avez la description de ce qu'il y a dans ce passage, la description de ce qui arrive au serviteur, d'une part dans les versets 2-3, et d'autre part dans les versets 7-9. Et enfin, entre, c'est-à-dire le verset 4-6, et la conclusion, le verset 10, c'est le dévoilement du sens des souffrances du serviteur qui font partie du plan de Dieu, souffrances qui font partie du plan de Dieu. Et enfin la finale, troisième partie, donc prologue, récit et finale, la finale, chapitre 53, versets 10 à 12, c'est la victoire et le triomphe du serviteur et la fécondité de son épreuve. Donc je pense que maintenant, Marie-Ange va vous dire comment faire. Merci. Les références de ça, du quatrième chant ? Vous allez...